9h-11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
Et bonjour Stéphane Bern.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous.
Plaisir de vous entendre, on vous entend tous les jours sur Europe dans Historiquement Vôtre avec Jean-Luc Lemoine. Ce matin on va parler de télé, vous présentez pas moins de 5 émissions sur France Télé, Secrets d'Histoire, Le Village Préféré des Français, Le Monument Préféré des Français, Si les Murs Pouvaient Parler, La Ferme Préférée des Français, et sans parler d'édifice avec un gun, là ça rigole plus. Première question, vous n'êtes pas dans ce studio, vous êtes où? Vous n'êtes pas en Angleterre?
Non, je suis venu faire une pause pour rechercher des vêtements de deuil pour lundi prochain, puisque je vais présenter les funérailles. Je suis allé dans le Perche chercher de quoi m'habiller convenablement.
Dans le Perche, j'ai vu votre maison, dans Paris Match, là aussi c'est encore une info média, c'est pas du tout une info vie privée, mais cette info, merci Stéphane pour cette info, vous allez chercher des vêtements de deuil. On va parler tout à l'heure des funérailles qui auront lieu lundi, mais d'abord votre actu, c'est le monument préféré des Français, ce soir à 21h sur France 3. Racontez-nous le principe de l'émission.
Le principe de l'émission, c'est un peu les Miss France des monuments, voyez-vous.
Ouais.
D'abord, il y a des présélections. Ben, écoutez, certains monuments sont du XXe siècle.
C'est vrai.
Ils ne sont pas tous des sites archéologiques comme Filitosa en Corse. Il y a aussi des monuments un peu plus récents. Ce sont les régions par région, il y a 13 régions administratives, plus l'outre-mer, ont voté parmi une sélection de 3 monuments pour choisir le monument qui allait les représenter ce soir. Mmh. Et ce soir, on va donc dévoiler le monument préféré. Alors, ça a un impact économique, politique. L'année dernière, c'était la place Stanislas qui avait été élu monument préféré des Français à Nancy, voilà. Et donc, le maire Mathieu Klein avait fait des grandes affiches dans le métro parisien pour inciter. Et ils ont eu 30 à 40% de visiteurs en plus à Nancy. Donc c'est vraiment une opération gagnant-gagnant, j'allais dire, pour les villes ou pour les villages quand le monument est choisi. Alors là, on a 14 monuments en lice, 13 pour la métropole et 1 pour l'outre-mer. Et donc, ce soir, on va dévoiler comme ça le classement. Alors ça montre, on est à 2 jours, ça vous a pas échappé, des journées européennes du patrimoine.
Exactement.
Donc on parle beaucoup patrimoine. Et ces monuments, au fond, c'est quoi? Ben, il y a à la fois des sites archéologiques, il y a des à Le Ward dans le Nord, il y a par exemple un souvenir, comment dire, de l'architecture minière, donc industrielle. On a des églises, on a des ponts, le pont transbordeur sur la Charente, par exemple.
Racontez pas tout, Stéphane, on va détailler. L'émission commence fort. Je l'ai vu l'émission, j'aurais jamais pensé qu'un des monuments préférés des Français ne se trouvait pas en France il y a 3 siècles, et que lorsqu'il a été érigé il y a 8000 ans, la France n'existait pas, ni même aucun pays. On vous écoute. Alors, on vient de me dire qu'on n'avait pas le son.
On n'a pas le son.
C'était le son de Filitosa.
Exactement.
Racontez-nous, alors, c'est un site préhistorique qui
Ça se trouve en Corse, à Filitosa. C'est un site archéologique extraordinaire avec une sorte de menhir comme ça. Et c'est vrai que c'est une famille qui a le terrain et qui a hérité de cela. Le jeune homme raconte ça. Il a hérité de ça de son grand-père et évidemment ça attire le public. Mais il cultive. C'est à la fois l'âme corse et puis en même temps quelque chose qui nous dépasse tous parce que ça a des milliers d'années. Et donc c'est très émouvant de voir comment cette famille essaye de préserver cet héritage qui appartient. Parce que, au fond, le patrimoine, voyez-vous, on n'en est pas propriétaire, on est davantage dépositaire, ils en sont un peu les gardiens. Ils se disent, il faut que tout cela, eh bien, on le transmette aux générations qui viennent.
Il y a quelque chose qui m'a vraiment frappé aussi, c'est devenu un site archéologique, il y a des fouilles une fois par an, et il y a un chercheur qui trouve une petite pierre. En fait, c'est pas de la pierre, c'est un vestige, c'est un fossile, c'est du chewing-gum. Vous saviez qu'il y avait du chewing-gum en Corse, qui datait d'il y a 8000 ans?
Bah écoutez, sans doute, quand on faisait paître ces brebis on s'ennuyait un peu, donc on mâchouillait du chewing-gum. Mais vous savez, dans la Grèce antique aussi, on en trouve, ça s'appelle du mastica. Donc tout cela existait bien avant nous. Mmh. On se croit toujours les génies inventeurs de tout, mais en fait, tout était déjà là.
Ouais, parlez pas trop de ça, parce qu'après on va recevoir Jules, et lui il raconte dans 50 nuances de grec la Grèce antique, ils ont des portables et des fois le GPS ne marche pas. J'arrête les anachronismes. Pour dire que dans les monuments en lice ce soir, il y en a un qui est à Cherbourg, c'est l'imposante gare maritime qu'accueille la Cité de la Mer. C'est Bernard Covin, le président fondateur de la Cité de la Mer, qui raconte les dessous de cette gare.
Moi, je dis souvent, en parlant de cette gare maritime, C'est à la fois une cathédrale art déco par son ampleur. Pensez, la plus grande construction française après Versailles. Donc c'était énorme, c'est un défi extraordinaire en termes d'architecture qui avait été posé là. Et donc, Chiamo va devenir vraiment le port d'escale de toutes les grandes compagnies.
À la fin du 19e siècle, Cherbourg est en effet l'un des principaux ports de départ des émigrants à la conquête du Nouveau Monde. Près de 50 millions de personnes venant d'Europe, de Russie, du Proche-Orient vont embarquer sur des paquebots direction les Amériques. Ils fuyaient la misère, les famines et les persécutions. Tous rêvaient d'une vie meilleure. C'est ce qu'on a appelé l'épopée transatlantique.
Dites-moi une chose, la gare maritime de Cherbourg, oui, qui accueille depuis l'an 2000 le Redoutable, premier sous-marin nucléaire français, aussi le plus grand sous-marin visitable au monde, il est transformé en musée, mais quand même, est-ce que c'est pas un peu belliqueux comme monument ?
Non, pas trop, parce qu'en réalité, quand on y est, c'est une invitation à l'évasion. Moi, j'ai beaucoup aimé cette gare maritime de Cherbourg. Et le Redoutable qui a été installé là, c'est vrai que c'est un sous-marin nucléaire, le premier inauguré par le général de Gaulle en 1967. Mais voyez-vous, ça change notre regard quand vous rencontrez tous les sous-mariniers qui ont vécu. Mmh. Et qui vous racontent, parce que ce sont les guides là-bas, ils vous racontent leur vie dans un sous-marin. Et on prend conscience tout d'un coup de la vie des femmes et des hommes. Et c'est ce qui m'amène à dire que derrière des pierres, ou derrière du béton, ou derrière tout ce qu'on appelle monument ou patrimoine, il y a des femmes et des hommes. Il y a des incroyables aventures humaines.
Ouais, vous avez raison. Et au moment où je posais la question, je me disais, les remparts de Briançon, créés par Vauban, c'est tout aussi belliqueux. Et c'est un monument. Vous restez avec nous, Stéphane Bern. On a encore beaucoup, beaucoup de questions. On n'a pas eu le temps de parler du patrimoine, du loto du patrimoine. C'est en ce moment. On n'a pas eu le temps de parler, oui, de ce qui va se passer lundi en Angleterre. Et encore beaucoup d'autres choses. Je prends mon gun, je reviens. Courte pause dans Culture Média. Berg, je me tourne vers vous. Vous avez eu l'occasion de parler de ce sujet, Emmanuel Macron.
Écoutez, vous savez, on en parle souvent parce que moi, je suis un fervent défenseur de l'écologie. Et lui dit qu'il l'est tout autant. Et on se chamaille un peu sur les questions des éoliennes qui, comme vous le savez, ne sont pas renouvelables, puisque c'est du béton qu'on met dans le sol et qui déclenche beaucoup plus de CO2. L'Allemagne en a 8 fois plus que nous. Mais bon, en même temps, c'est difficile de contredire le chef de l'État. Moi, je me permets de le faire quand j'ai l'occasion de le faire. C'est pas parce que j'ai une mission présidentielle sur la défense du patrimoine en péril que je me retiens de dire ce que je pense. D'abord, je suis pas payé, je suis bénévole. Donc les gens bénévoles comme moi, on peut dire ce qu'on pense parce qu'on risque pas d'être viré.
Puisque vous en parlez, on est en plein loto du patrimoine. L'opération a déjà collecté 100 millions d'euros depuis 2018. Les billets sont encore en vente. Il y a 118 projets emblématiques soutenus par cette mission. Ce que vous avez obtenu d'extraordinaire, Stéphane Bern, c'est qu'à part les frais de fonctionnement, une grande partie de l'argent va au patrimoine. Et non pas la dîme habituelle de la Française des Jeux, qui est plus que 10% d'ailleurs pour une dîme. C'est une grosse dîme qu'ils ont d'habitude.
Oui, oui. Bah, vous savez, en même temps, il faut leur reconnaître que c'est une mise en place compliquée. Il faut fabriquer les tickets de grattage. Et en même temps, il y a les buralistes qui font un travail sensationnel pour les promouvoir. J'étais encore ce matin acheter un ticket de grattage. Et je vois qu'il y a des affiches. Ils font leur travail pour promouvoir le loto.
Parce qu'il faut savoir, c'est
qu'en 5 ans...
Ouais. Parce que c'est dans votre village.
Ouais. Exactement. Mais en 5 ans, Philippe, en 5 ans, la mission patrimoine que je mène a récolté 200 millions d'euros. Alors, wow, on peut dire que c'est une goutte d'eau, mais c'est quand même pas mal. Enfin, je dis la mission, c'est les Français qui ont joué.
Bien sûr.
Parce que le loto du patrimoine, ça représente à peu près la moitié ou un peu plus de la moitié de cette somme. Le reste, c'est l'effet levier avec les mécènes, AXA et tant d'autres, qui nous soutiennent et qui ont décidé de Et puis les gens qui collectent, évidemment. Mmh. Alors, on peut faire des dons à la Fondation du patrimoine, etc. Donc, tout cela, c'est 200 millions. On a sauvé... Enfin, on a retenu 745 projets et on en a sauvé déjà 67%. Et d'ailleurs, je vais aller avec le président de la République vendredi dans un des hauts lieux du patrimoine choisi cette année dans les 18 emblématiques pour donner un chèque de 500 000 euros au monument en question.
15 euros le ticket à gratter, c'est bien ça, Stéphane ?
Alors, les tickets à gratter sont à 15 euros, un peu plus cher qu'habituel que pour les autres tickets. Mais la Française des Jeux dit que ça touche un autre public, ouais. Un public un peu plus aisé. Maintenant, moi, j'achète plutôt j'ai joué pour le tirage, c'est des grilles à 3 euros. Et là, c'est un peu plus accessible, évidemment, dans cette période un peu difficile. Mais vous savez que l'année dernière, dans cette période Covid, eh bien, la Française des Jeux nous a annoncé qu'au lieu de 25 millions, elle avait récolté 28 millions pour le patrimoine. Donc, vous voyez, ça augmente. Ça ne veut pas dire que les gens jouent davantage, mais bon, le gain principal va aux gagnants. Hein, je le rappelle,
j'ai compris.
72% des sommes vont aux gagnants, mais c'est la part de l'État qui revient au patrimoine.
Le gain principal, c'est pas rien, c'est un jackpot de 13 millions d'euros. Et je le dis, les prochains tirages, c'est aujourd'hui et ce sera samedi le 17. Donc, la disparition d'Elisabeth II, comment vous avez vécu cette semaine unique dans l'histoire, humainement et même surtout, ce qui nous intéresse en émission média, professionnellement? Combien d'heures de direct sur combien de chaînes, Stéphane?
J'ai commencé le premier jour. D'abord, ça n'arrêtait pas, le téléphone crépitait dans tous les sens. Moi, gentiment, je réponds quand on me pose des questions. Et puis ensuite, il y a votre employeur, c'est-à-dire France Télévisions, qui vous appelle en disant là, mon gars, faut rentrer. Hein.
Ouais.
Et donc, je rentre dardard. Je réponds à Laurence Ferrari en direct sur Europe 1. Et puis, j'arrive ensuite à France Télévisions. Je fais C'est à vous par Skype. Et puis, 4 heures de direct aux côtés d'Anne-Sophie Lapix. Le lendemain, Laurent Delahousse me propose qu'on aille à Londres pour faire un journal en direct de Buckingham Palace, que j'ai fait. Et puis, je me prépare maintenant paisiblement, en travaillant, en retravaillant tout le protocole et en révisant un peu tout pour les funérailles qui vont durer longtemps, puisqu'on va prendre l'antenne à 10h, je crois, lundi matin sur France 2, et on tiendra l'antenne jusqu'à la fin des funérailles.
Vous serez où? On va recevoir Julien Bugier avec nous vendredi pour en parler. Vous serez où? Vous serez à Londres? Vous serez en duplex depuis Paris, Stéphane, pour les funérailles?
Pour nous commentateurs, c'est beaucoup plus simple d'être à Paris, dans les studios, parce que là-bas, l'espace qui est accordé, qui est pour les commentateurs étrangers, est vraiment réduit. Donc, on ne peut pas faire un vrai plateau de télévision. Or, les gens ont besoin de voir les images. Il y a les envoyés spéciaux, Stéphanie Pérez et d'autres, et Ambroise Boulouès qui seront sur place. Et puis, avec Julien Bugier, et puis quelques autres invités pour commenter la cérémonie religieuse, notamment, nous serons en studio à Paris.
Ça va faire des heures de direct.
Alors, humainement, si vous voulez, vous êtes tellement pris. Ça m'a replongé 25 ans en arrière, quand tout d'un coup, la mort de Diana m'avait projeté, malgré moi, sur le devant de la scène à commenter exactement. Parce que, vous savez, après, beaucoup de gens en parlent et très peu de gens ont connu ces personnages. Donc, c'est aussi parfois un peu agaçant dans ce que j'entends. Je ne vous dirai pas ce que j'ai entendu comme ânerie sur d'autres chaînes. Mais c'est vrai, j'ai eu la chance de rencontrer Diana, j'ai eu la chance de rencontrer la reine Elisabeth plusieurs fois et de savoir d'essayer de comprendre un peu qui elles étaient et de travailler sur le sujet depuis tant d'années. Alors, vous essayez d'apporter quelque chose, de donner un peu de fond pour que ça ne reste pas dans l'anecdote et le côté gossip potin. Mais donc, vous oubliez vos émotions personnelles. C'est-à-dire que vous êtes vraiment dans le guidon professionnel, en fait.
J'ai bien compris. Alors, vous avez beaucoup travaillé, on vous a beaucoup vu. Et là, il a été franc, vous avez vu Mélenchon à la fête de l'UMA.
Oui, c'était adorable.
Je vais le citer, il a dit « Le système médiatique, dit Jean-Luc Mélenchon, il le dit mieux que moi, est d'une pauvreté absolue. C'est le moment qui les intéresse, sous-entendu les médias. Et là, on va se bouffer de l'arène pendant 10 jours. » Et Jean-Luc Mélenchon a ajouté « On va beaucoup voir Stéphane Bern et moi, je l'adore. Peut-être qu'il vous, 3 petits points, mais moi, je l'adore. » Votre réaction?
D'abord, ça me fait plaisir. Et je dois reconnaître qu'à titre privé, Jean-Luc Mélenchon a toujours été d'une grande courtoisie et d'une grande gentillesse à mon endroit. Je le dis parce que quand j'ai eu des pépins dans la vie, il était là pour m'envoyer des petits messages de soutien en disant, ça n'empêchera pas le jour où il arrivera au pouvoir de me couper la tête, j'imagine. Mais pour autant, je trouve qu'avec moi, il se montre d'une courtoisie extrême et je le remercie de ses mots. Je pense qu'il sait qui je suis au fond. C'est-à-dire, je ne suis pas dupe ni complice de... Vous voyez...
J'ai compris.
Extatique de ce qui se passe dans la monarchie britannique. Je suis un observateur de ces faits et j'essaye de les décrypter. Voilà ce que j'essaye de faire.
Et puis, c'est un malin Mélenchon. C'était aussi un petit peu à destination, c'est un billard à trois bandes, à destination de son lieutenant Alexis Corbière qui vous avait allumé En 2015, il vous a reproché que sur 140 numéros de Secrets d'Histoire, n'avoir consacré que 3 ou 4 numéros à des roturiers. Et vous en étiez, ah, il y a vos corgis qui aboient derrière vous.
Oui, non, ce qui est amusant, parce que après Alexis Corbière, qui était contre le loto du patrimoine, il était très content quand je suis allé à Montreuil pour donner un chèque de 100 000 euros pour le mur aux pêches de Montreuil. Et il a été obligé de me remercier. Il a demandé en plus à être là. Donc ça se passe bien avec lui. Il dit partout qu'il m'adore. Bon, ça l'empêchera pas lui non plus de me couper la tête. Ouais. Non, ce que j'avais pas apprécié, c'est vrai de dire ah oui, mais il y en a que pour les rois, les reines. Pardon de lui rappeler, chaque fois que je traite d'un sujet secret d'histoire sur des révolutionnaires, l'audience chute de moitié. J'y peux rien, Danton, ça marche pas. Olympe de Gouges, que je voulais faire Olympe de Gouges parce que j'ai une passion pour cette femme, ça n'avait pas marché. Chaque fois qu'on fait des Clémenceau, ça avait moins marché que Louis XVI. Et c'est les 5 millions d'audience de Louis XVI, ça lui était resté en travers de la gorge.
Ouais, on fait de la télévision pour les gens qui la regardent. Merci beaucoup aussi. Stéphane Bern. Merci aussi. Le monument préféré des Français ce soir à 21h sur France 3 et tous les jours sur Europe 1 de 16h à 18h dans Historiquement Vôtre avec Jean-Luc Lemoyne, dont vous serez tout à l'heure présent à l'antenne. Merci d'avoir été avec nous en direct.
Merci beaucoup.
Culture Média continue sur Europe 1 après les infos de 10h. Notre invité, le dessinateur, le scénariste Jules, qu'on connaît pour Silex and the City, La planète des sages ou Les derniers Lucky Luke, mais comme scénariste, il vient pour son nouveau roman. C'est pas tout à fait un roman, il écrit lui-même une épopée. C'est 50 nuances de grec, c'est une nouvelle version. Et puis, un hommage à Jean-Luc Godard avec notre monsieur cinéma Olivier Benkemoun. Et puis, dans une toute autre ambiance, Jean Z nous propose un jeu vidéo pour renouer avec nos émotions enfantines, Splatoon. Jean-Luc Lemoyne sera là aussi pour la session de rattrapage. Quelle deuxième heure ? À tout de suite sur Europe 1.
Culture Média sur Europe 1. Le clair.